les ondes de Mista. Mista, c'est un sobriquet, en même temps un mystère. Les ondes mystérieuses, c'est-à-dire les ondes mystérieuses du voyage. Mon émission va traiter les sujets liés à l'asile et l'immigration. Les ondes de Mista. On y va. Bonsoir chers auditeurs, bonsoir chères auditrices. L'humanité tout entière a célébré le 20 juin, la journée des réfugiés. Des milliers de personnes se déplacent à travers le monde pour y chercher refuge, nourriture et protection. C'est le cas ici en France, terre d'asile qui accueille dans ses différents et nombreux centres de personnes ayant fui leur pays pour diverses raisons, seules ou en famille. Comment vivent-ils ce changement en attendant leur régularisation? C'est le cas en Seine-et-Marne du centre d'accueil pour demandeurs d'asile, CADA de Brou-sur-Chantraine Nord 77, nous intéresse dans cette émission, d'où le thème « Réfugiés, deux points CADA et après ». Ce thème est inspiré du film documentaire réalisé et diffusé l'année dernière justement au CADA de Brou, intitulé « Mon enfance au CADA ». Pour en parler, je suis en ligne avec la directrice du CADA Nord 77, Bénédicte Larnaudy. Bonsoir.
Bonsoir.
Et en ligne aussi avec la réalisatrice du film documentaire Mon enfance au CADA, Anne Kounvari. Bonsoir.
Bonsoir.
Avant de réaliser ces films documentaires, Anne, aviez-vous auparavant de préjugés sur les migrants ?
Non, je pense pas que j'avais des préjugés. Après, j'avais une absence de connaissances, surtout. Après, j'en avais croisé dans ma vie personnelle. Je dirais pas le point de vue, le mot préjugé. Par contre, évidemment qu'en faisant ce film, j'ai découvert de manière beaucoup plus intime et personnelle des migrants.
Et au moment du tournage, qu'est-ce qui a changé en vous ? Ou votre perception sur les migrants a-t-elle changé par rapport à ce qui se rapporte sur eux ?
Ma perception n'a... Enfin, à partir du moment où j'ai fait ce film, c'est parce que je pensais quand même avec Bénédicte qu'un migrant n'est jamais qu'une personne humaine qui, pour des raisons diverses et variées, ne peut plus vivre chez lui. Donc cette humanité-là, je la reconnaissais avant. Après, ce qui m'a énormément touchée dans la rencontre avec les personnages du film, c'est vraiment leur force de vie, c'est un mot très à la mode aujourd'hui, mais c'est leur résilience, parce que quand même, ils sont passés par des moments extrêmement violents. Et du côté des enfants, cette capacité quand même à se construire et à devenir des Français comme les autres, quoi. Et ça, voilà, je ne le savais pas, je pensais pas le contraire, mais je ne le savais pas comme ça.
Et Bénédicte, le CADA Nord 77 a été créé en 1998, donc vous hébergez et accompagnez les demandeurs d'asile dans leur démarche. Vous avez accueilli l'équipe de tournage dans votre établissement. Qu'est-ce que vous avez senti dans votre cœur ou dans votre être en écoutant les personnes que vous hébergez autrefois?
Beaucoup d'émotions, parce que des souvenirs d'enfants qui peut-être embellissent effectivement une réalité du quotidien. J'ai vu l'importance que ça avait d'être avec les gens, avec les personnes. J'ai compris ce que voulait dire le mot accompagner, enfin, c'est-à-dire partager des moments de travail, parce qu'il faut travailler sur la demande d'asile, partager des moments d'intimité avec les familles, de joie aussi. Je pense que, ben moi, j'aime bien rire. J'aime bien rire et faire des plaisanteries et j'aime bien détourner le grave parce que je sais que on va pouvoir s'en sortir. Enfin, on va pouvoir reconstruire autre chose. Donc j'ai confiance dans la vie et peut-être que je transmets ça aussi aux résidents, aux personnes hébergées que j'ai rencontrées. Donc ça fait à peu près 900, on a dit que c'était 950 personnes qui sont passées par le CADA depuis 98. Moi j'ai pas l'impression d'être fatiguée par mon travail, de continuer, j'ai pas l'impression d'avoir passé 20 ans.
Et dans le film documentaire, tous ces anciens résidents vous citent nommément. Vous avez certainement marqué leur vie, mais qu'est-ce qui a été difficile pour vous en les accueillant au début?
Arriver à créer le lien avec la personne, arriver à créer un lien de confiance pour pouvoir travailler, parce que c'est vrai que l'objectif aussi dans cet hébergement, cette prise en charge en centre d'accueil pendant l'an d'asile, c'est d'amener les personnes à pouvoir défendre leur dossier, défendre les raisons qui les ont fait venir en France et qu'ils obtiennent le statut de réfugié, d'arriver aussi à les... Est-ce que je vais réussir à les amener à mener leur demande d'asile jusqu'au bout, à les faire comprendre qu'il va falloir reparler de choses qui sont difficiles. Alors, mais j'ai pas senti des choses difficiles, enfin insurmontables.
Non, pour compléter ce que dit Bénédicte, et elle me contredira peut-être, mais je pense que ce qui est super dur, c'est quand les gens n'ont pas leur demande d'asile.
Oui,
Et
justement.
quand voilà, et quand ça se passe mal, quoi. Là, on a eu des familles pour qui les choses se sont bien terminées parce qu'elles ont obtenu leur demande d'asile et parfois après quand même des circonstances assez rocambolesques parce que parfois ça a mis vraiment très longtemps. Mais il y a aussi plein de familles qui n'obtiennent pas leur demande d'asile et là, le CADA est obligé de les réabandonner. Il n'a pas le choix, quoi. Et ça, je pense que c'est super difficile, hein?
D'accord. Oui, je suis d'accord avec toi.
Et le CADA, après que les demandeurs d'asile soient déboutés, le CADA ne les envoie pas vers d'autres centres ou dans un lieu où ils peuvent être accueillis, non?
Après, on travaille sur le projet d'après, qui est très restreint. En fait, ils ont, sur la convention qu'on passe avec la préfecture, donc les personnes déboutées ont un mois pour quitter le CADA après la décision de rejet définitive. Non, après, on n'a plus, il n'y a plus de, il n'y a pas de ligne tracée après. Quand ils arrivent pour demander l'asile, oui, ils peuvent demander un CADA, mais quand ils sont déboutés,
Ça devient
il
compliqué.
faut. Ouais, c'est le 115, en fait, c'est le 115.
Et Anne, dans votre documentaire, vous avez récolté le témoignage des enfants des réfugiés et leurs parents présents au CADA en 1998, 2000 et 2005. Ça fait de frissons quand même de les voir grandir, évoluer aujourd'hui. C'est vous qui les avez interviewés. Comment étaient-ils face à leurs souvenirs d'il y a 20 ans, 25 ans ou plus?
Bah, je crois qu'ils étaient hyper émus. Ils avaient très peur de cet entretien, évidemment, parce que je pense que, mais ça, Denis et Aris vous diront, ça remue des choses qui sont parfois compliquées dans la mémoire. Mais ils étaient extrêmement émus. Et en plus, on a fait l'entretien dans cette fameuse salle de jeu où ils jouaient petits et qu'ils n'avaient pas revus pour la plupart depuis 15 ans. Ça veut dire que tout à coup, il y a plein de souvenirs qui leur sont remontés. Et donc, effectivement, quoi, c'était, enfin, moi, je trouvais ça super émouvant de les voir par moments redevenir enfin, se remettre dans la peau de l'enfant qu'ils avaient été, quoi, et nous raconter un tout petit peu de ce qui se passait dans la tête de ces enfants qu'ils avaient été il y a 15 ans ou 20 ans, quoi. Donc, ouais, c'était très émouvant. Et puis, leur sincérité était émouvante. C'est-à-dire, je pense qu'ils avaient vachement... Enfin, ça a été difficile pour eux, je pense, pour eux tous, de témoigner. Mais à partir du moment où ils ont décidé de témoigner, ils y sont allés, quoi. Ils ont donné. Ils ont essayé de faire comprendre. Ils ont essayé de transmettre. Ils ont essayé vraiment de s'ouvrir, quoi. Et ça, c'était très émouvant aussi, ce travail intérieur.
Nous allons à présent suivre un extrait de mon enfance au CADA.
Nous sommes au CADA, le centre d'accueil de demandeurs d'asile de Brousse-sur-Chantraine en Seine-et-Marne. C'est ma petite Répine. Elle veut apprendre à lire et à écrire. Je sais bien que c'est une question difficile, mais quand je serai vraiment très très grande, dans longtemps, j'adorerais devenir médecin. Janat, qui ne parle pas français, pas encore, mais d'après Zainab, sa mère,
Zainab de départ, on a vu que le CADA faisait plusieurs étages, qu'il y avait plusieurs familles comme nous. Donc en fait, l'avant et l'après CADA, ça marque vraiment le passage de l'isolement à une période dans laquelle on sera beaucoup plus désentouré.
C'est comme si je voyais une nouvelle vie qui commençait en fait. Un nouveau départ.
Je devais juste penser au fait que j'étais un enfant, que j'avais l'école et puis reprendre ma vie naturellement. Et ça m'a enlevé un poids énorme.
Juste avant, on vivait dans un garage. Donc du coup, quand mon père nous a prévenu qu'on allait vivre dans un appartement et qu'on allait avoir une chambre, mon frère et moi, c'était de la joie et du soulagement aussi.
J'étais bien ici, j'étais bien.
Anne, l'un des anciens résidents, a fait savoir que dans le CADA, qu'il a eu à retrouver sa vie d'enfant qui était compliquée auparavant, donc une fois arrivé en France avant d'être orienté à Brou. Selon vous, y a-t-il un travail de psychologie à développer dans les différents lieux d'accueil lorsque toutes ces personnes demandeurs d'asile sont prises en charge dans un centre ?
Alors, un travail psychologique, je pense que pour certains, ça peut être utile et ça peut être nécessaire. Je pense déjà qu'il faut les accueillir, les entourer et les accompagner. C'est déjà la première étape et c'est déjà l'essentiel. Et finalement, tout ce travail de reconstituer une espèce de famille, donc une espèce d'enveloppe protectrice quoi, pour ces familles qui avaient été super bousculées, tout ça, qu'a fait le CADA, je pense que voilà, c'est la première étape. Après, effectivement, peut-être que pour certains de ces enfants, et probablement même plus les adultes, je ne sais pas, pourraient avoir besoin de d'autres prises en charge. Et il existe des associations, d'ailleurs, hein, je pense à l'association Primo Levi ou à d'autres associations comme ça, qui essayent d'aider les gens à se confronter, enfin, en tout cas à travailler et à réussir à digérer leur traumatisme. Voilà, mais je pense que le rôle du... Déjà, si tous les CADA arrivaient à accueillir, à accompagner, à entourer les familles et les hommes et les femmes seuls, je pense que ça serait déjà super bien.
Et Bénédicte, ouais. Combien de temps à peu près les demandeurs d'asile restent chez vous ?
Pour l'instant, actuellement, on est plutôt sur les 14-15 mois.
Et quelles sont les nationalités les plus courantes ?
L'année dernière, il y avait 16 nationalités différentes. Enfin, il y a deux ans, c'était 16 nationalités différentes. Là, il y en a 9. Donc, on a une capacité d'accueil de 70 personnes. Donc, ça fait 28 ménages, 28 familles. Il y a plutôt, l'année dernière, une dominante République démocratique du Congo et puis Côte d'Ivoire.
Mais c'est la carte des conflits du monde ou des endroits très, très difficiles du monde. Hein. À travers le temps, quand on regardait le journal d'accueil, mais on pouvait refaire quasiment l'histoire des conflits en Afrique, en Asie, etc. En Yougoslavie, voilà.
Et comment arrivez-vous à occuper leur temps?
Ils avaient une vie avant, ils ont une vie, les enfants vont à l'école, il faut s'occuper de la maison, il faut s'occuper aussi de la famille peut-être qui est restée au pays, il faut s'occuper de son dossier, il y a des démarches à faire, il y a le quotidien qui prend de la place aussi, hein. Et puis on essaie aussi d'avoir des ateliers collectifs pour que les gens s'échappent un peu de la pesanteur de la demande d'asile, parce que effectivement ils savent pas si ça va aboutir, donc ça c'est quand même une angoisse de tous les jours. Les gens dorment mal la nuit, hein, ils dorment pas la nuit, ils dorment la journée, parce que la journée on est là et que c'est sans doute plus rassurant, hein, de fermer les yeux la journée. Donc les cauchemars, c'est plutôt effectivement la nuit, donc on ne dort pas la nuit. Mais... Donc, c'est un peu décalé là-dessus. Donc on essaie d'avoir des ateliers collectifs, on essaie de créer du groupe, du collectif, de faire venir des gens de l'extérieur, qui effectivement des bénévoles, des liens avec la société civile. Ça ne doit pas être un lieu fermé, on ne vit pas sous cloche parce qu'on est demandeur d'asile. Il faut du lien avec le pays. Moi, par expérience, je sais que les gens, même déboutés, ils partent pas comme ça. Enfin, je veux dire, s'ils sont venus, c'est parce qu'ils avaient des raisons impérieuses de quitter leur pays, qu'ils ne se sentaient pas en sécurité, et que même s'ils n'ont pas ce sésame-là, donc cette reconnaissance de la persécution, ils ne vont pas partir. Donc voilà. Moi, ce n'est pas quelque chose que je dis, que je leur dis. On travaille sur la demande d'asile. Après, on n'oublie pas le projet personnel et familial non plus. Tout n'est pas misé dans le discours qu'on peut avoir dans l'équipe des salariés, tout n'est pas misé sur la demande d'asile, ça aboutit ou ça aboutit pas, et après c'est le néant. Non, la vie elle continue, elle est là, vous avez fait ça, continuez à vous préoccuper de vos enfants qui sont encore au pays, continuez à vous préoccuper, faire des recherches pour rechercher votre mari, votre conjointe, les liens ils sont là avec le pays, c'est indéniable, et les liens ils se créent avec le pays d'accueil aussi.
Nous allons à présent marquer une pause musicale. Anne, dans le documentaire, un parent a dit, je le cite, « La France est un petit paradis, même si je mourrai, mes enfants vont se débrouiller. » La perception de l'Europe comme Eldorado, par certains, vous angoisse-t-elle ?
Non, elle ne m'angoisse pas parce que, en fait, objectivement, quand on vient d'un pays en guerre ou d'un pays où les gens ne mangent pas à leur faim, évidemment que l'Europe est un paradis aujourd'hui avec de la protection sociale, du soin, etc. Même si tout n'est pas paradisiaque en Europe et même si pour beaucoup de migrants, ça peut être très, très difficile. Donc, de ce point de vue-là, ça va m'inquiéter pour eux, parce qu'ils vont avoir à traverser quelque chose de dur. Mais est-ce vraiment plus dur que ce d'où ils viennent? Enfin, voilà, quoi. La comparaison, quand même, aujourd'hui, je comprends qu'on puisse dire que continent où on n'a pas à craindre pour sa vie tous les jours, c'est un petit paradis par rapport à des pays où, effectivement, parfois, on craint pour sa vie tous les jours.
Et Bénédicte, la vie de vos anciens résidents a changé. Ils ne sont plus les mêmes en âge, en pensée, en tout. Ça vous fait comment de les avoir revus 10 ans après, 15 ans après?
Bah, j'étais fière d'eux. J'étais fière de ces enfants qui avaient bien grandi, qui s'en sont sortis. Je me fais plus de soucis pour les parents, effectivement, les parents, les adultes que j'ai vus il y a 20 ans ou il y a 15 ans. Je pense que c'est une génération sacrifiée qui misent tout sur leurs enfants et que eux, ils sont entre deux pays. Ils sont retournés peut-être dans leur pays d'origine et qui a changé. Et donc, ils s'y sentent plus vraiment chez eux quand ils y retournent. Et puis, en France, ils sont pas non plus tout à fait chez eux parce que, effectivement, le dit à un moment donné, hein, nos morts, nos amis, ils sont restés là-bas.
Et depuis leur départ, sont-ils venus vous visiter ou font dedans, par exemple?
Alors moi, je reçois souvent des petits messages téléphoniques pour la fête des mères. Donc j'ai des personnes qui ont le même âge que moi, qui me souhaitent la fête des mères, qui m'envoient des choses pour Noël. Oui, il y a toujours des petits messages comme ça. Ils passent pas forcément au CADA, mais il y en a qui passent. La porte est toujours ouverte, on est toujours content de les voir. Et puis on les reconnaît, on n'a pas oublié leur nom. Et donc ça fait du bien. Ouais, ça leur fait du bien. Et nous, ça nous fait plaisir. Ça nous fait plaisir qu'ils reviennent. Parce que je me dis, c'est gratifiant.
Oui, bien sûr. Et Anne, au cours de l'interview, donc au cours du tournage, est-ce que ces anciens résidents vous ont-ils relaté ce qui s'est passé dans leur vie en communauté? Parce que là, ce n'est pas facile.
Oui, mais en fait, leur souvenir du CADA, enfin en tout cas les adultes qui étaient là, avaient plutôt un souvenir positif de ce temps du CADA. Le truc le plus dur qui était dans le temps du CADA, c'était l'angoisse de savoir s'ils auraient ou pas des papiers. Et ça, c'était hyper angoissant. Mais pas les personnes que j'ai interviewées, hein, eux, au contraire, avaient vécu ce mélange de famille au CADA comme un enrichissement. Et finalement, ils avaient découvert plein de gens différents. Ils auraient pas forcément anticipé avant que ça aurait pu leur plaire. Et finalement, ils étaient contents de s'être fait aussi, comme ça, de nouvelles familles amies au CADA. Donc, en fait, non, il n'y a pas eu de ce point de vue-là, de critique ou de douleur exprimée. Pas du tout. Au contraire, un bon souvenir et un souvenir d'ouverture.
Merci beaucoup, Anne Kounvari, réalisatrice du documentaire « Mon enfance au CADA », d'avoir été notre invitée. Merci également à Bénédicte Larnaudy, directrice du CADA Nord 77, d'avoir participé à cette émission.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Au revoir. Et juste après vous, nous serons en ligne avec les anciens résidents, ces anciens résidents dont on parle, devenus adultes aujourd'hui. Musique. Plus tôt, si crevé qu'un danseur. Oh.
de la voix du vent et qui se glisse sous la porte. Écoute, on va changer de lit, changer d'amour, changer de vie, changer de jour.
Nous sommes en ligne également avec Denis et Aris, français d'origine ex-yougoslave. Ils étaient des anciens et ils étaient des anciens résidents du CADA d'Ebrou. Bonsoir.
Bonsoir.
Denis, avez-vous quel âge à l'époque lorsque vous êtes arrivé au CADA?
6 ans par là, 6 ans, 7 ans. Je rentrais au CP.
Et avez-vous quelques souvenirs d'enfance au CADA?
Oui, bien sûr. C'est des souvenirs un peu flous maintenant, bien sûr. Mais assez étonnamment, je garde des très bons souvenirs de cette époque-là. Et surtout des souvenirs remplis de plein d'amis, en fait, de diversité, d'une pluralité, de plein de gens de nationalités différentes. J'étais ami avec énormément de gens du même âge que moi, et mes parents, c'est la même chose. Donc j'en garde un souvenir un peu joyeux, où il y avait tout le temps du monde autour de moi, lorsque je repense au centre du CADA.
Et vous, Aris, vous avez quel âge à l'époque?
Alors à l'époque, moi je devais avoir entre 12 et 13 ans, donc j'étais au collège en classe de 4e, et comme mon petit frère, on était plusieurs enfants du CADA qui allaient dans ce même collège. Donc pour moi aussi, c'était vraiment de très très bons souvenirs. Et c'était vraiment ce passage au CADA qui a duré un peu moins de 2 ans pour nous, a été vraiment vécu comme une très bonne chose, comme une petite parenthèse enchantée de laquelle on se souvient avec un sourire immense aujourd'hui.
Et vous étiez avec vos parents quand vous êtes arrivé ici en France et
ils étaient... Alors oui.
Ouais. Ils étaient avec vous au CADA?
Alors, ils étaient avec nous au CADA, ma mère et mon papa, donc. Et du coup, avant d'arriver au CADA, on était en France déjà depuis à peu près un an. Et au CADA, ça a été en tout, ça faisait... La procédure a duré en tout pour nous 3 ans, donc pendant tout ce temps, on n'a jamais été séparés de nos parents, en fait.
À quel moment vos parents ont-ils obtenu le titre de séjour? C'était quand vous étiez au CADA ou après?
Alors, nous, on a eu une réponse positive au CADA, déjà, d'ores et déjà au CADA. Tout d'abord, au bout de un an, on a eu un refus de séjour en France. On a fait appel et puis au bout de 2 ans, on a été, le statut du réfugié a été accordé. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on a pu se projeter, que mes parents ont pu demander la nationalité française quelques temps après.
Donc ça marchait. Aujourd'hui, vous jouissez de votre vie en France. Et que faites-vous, Denis, Aris? Qu'est-ce que vous faites dans la vie aujourd'hui?
Alors, pour ma part, moi, je suis infirmier. Je travaille en tant qu'infirmier dans un centre de dialyse. Et Denis, moi, je suis encore étudiant. Je viens de finir mon Master 2 de droit fiscal. Et j'espère passer les concours qui me permettront de devenir avocat demain. Et si ce n'est pas le cas, j'exercerai en tant que juriste en entreprise.
Nous allons maintenant suivre un autre extrait du film documentaire « Mon enfance au CADA ».
En fait, avant notre arrivée au CADA, on a eu un parcours un peu chaotique.
où j'ai dû mettre ma vie d'enfant un peu de côté et vivre l'instant présent. Et là, pour la première fois au CADA, bah, j'ai pu reprendre mon rôle d'enfant, rejouer au basket ou au foot avec d'autres enfants et puis surtout m'inscrire dans un club sportif. Et du coup, voilà, c'est pour ça que cet objet-là symbolise le CADA pour moi. Donc, ça m'a permis d'avoir la vie d'un enfant normal et pouvoir commencer à me développer normalement alors que c'était compliqué auparavant.
Cette pièce me rappelle beaucoup de souvenirs. Beaucoup, beaucoup. Quand on venait jouer ici, quand on avait eu des cours de peinture avec un monsieur qui venait tout spécialement. Il y avait souvent Yvan ou Sylvie ou Bénédicte, donc ils étaient là avec nous. Donc on était avec les autres enfants du CADA.
On n'a rien dans la poche. Il faut absolument partir jusque où on ne connaît pas. Donc, vous avez aucun budget. Avec 5 enfants que j'avais, déjà avec ma femme, on était à 7. Donc, faire venir cette personne en France, je ne dirais pas que... C'est grâce à Dieu, je sais, tout simplement. Donc, une fois en France, c'était déjà le paradis pour moi. Même si je mourais en arrivant ici, je disais aux enfants, je sais que vous allez vous débrouiller. Au moins, vous ne mourrez pas.
Et Denis et Harris, pendant les 3 ans d'attente de vos papiers, comment a été l'ambiance d'abord en famille, ou vous d'abord, et ensuite en collectivité, là où vous étiez hébergés et pris en charge au CADA?
Ce qu'il faut comprendre, c'est que durant toute cette période d'immigration et d'arrivée en France, en fait, avec mes parents, on était vraiment totalement perdus. On n'avait aucun cadre et... L'arrivée au CADA nous a donné un cadre à tout point de vue, que ce soit administrativement, pour les recours qu'il fallait faire, pour un accompagnement juridique, pour un accompagnement vraiment administratif, mais surtout d'un point de vue humain. Donc en fait, l'attente de ces 3 ans, il y a 2 sentiments qui s'en dégagent. D'un point de vue, en fait, le CADA représentait vraiment une période d'accalmie pour nous. C'était une embellie dans toute cette période d'arrivée en France qui est très très stressante pour mes parents, douloureuse, comme vous pouvez l'imaginer. Et en fait, cette petite bulle que représente le CADA, cette petite famille, est parfois fragilisée, et c'est justement la procédure qui le fragilisait. Donc il y avait un quotidien qui était assez plaisant pour nous, mais c'est les grandes étapes de la procédure. En fait, on savait qu'il y avait quelque chose qui planait au-dessus de nos crânes, et que ça allait être soit les réponses des procédures qu'on allait avoir, soit les différents recours qu'il fallait effectuer, etc. Donc c'est un sentiment partagé. Au quotidien, c'était très bon et tout le monde était bienveillant avec nous, mais il y a tout de même un stress latent qui était là et qui existait durant toute cette période, surtout pour mes parents et pour mon frère qui était plus âgé à cette époque.
Et après avoir obtenu des papiers, il y avait encore une autre étape à franchir, celle de l'intégration. Est-ce qu'elle a été facile pour vous? Vous saviez parler déjà le français quand vous êtes arrivé, ou bien vous avez appris la langue française ici en France?
Non, en arrivant en France, on ne parlait pas un mot de français, mais ça a été assez facile pour nous d'apprendre le français. Moi, pour ma part, au bout de 3 mois, je commençais déjà à converser avec mes camarades en classe. Alors, c'était pas un français parfait, mais j'arrivais à me faire comprendre. Et pour mon petit frère, ça a été même plus facile. Il a réussi à parler assez rapidement. Voilà.
On a eu la chance d'arriver très jeune avec mon frère, ce qui nous a permis de pouvoir apprendre à parler, de nous intégrer plus facilement. Pour mes parents, ils parlent et ils comprennent le français très bien aujourd'hui. En revanche, ils ont toujours des difficultés et ils ont un accent particulier. Cette intégration par la langue a été plus difficile pour eux parce que mes parents avait à peu près 45 ans, ou oui, à peu près 45 ans en arrivant en France. Donc tout a été plus difficile pour eux.
Et quel message vous pouvez lancer aujourd'hui aux auditeurs qui nous suivent? Un message pour les migrants qui viennent d'arriver, qui sont dans une situation très difficile, dans une situation d'extrême pauvreté. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Un message d'espoir.
Alors, tout d'abord, avant notre arrivée au CADA, on s'est retrouvé à peu près dans la situation similaire qu'ont les réfugiés aujourd'hui en France. C'est-à-dire qu'on était livrés à nous-mêmes, qu'on était baladés d'hôtel en hôtel, et que c'était vraiment une période très compliquée, autant pour mes parents que pour nous, les enfants. Donc, si on peut mettre le point là-dessus, ne serait-ce que faire comprendre aux gens que c'est vraiment compliqué de quitter son pays et se lancer dans une aventure comme celle-ci d'immigration. Et c'est vraiment compliqué d'évoluer dans ce cadre-là. Donc, ne serait-ce que si on peut pas être, si on peut pas aider financièrement ou aider de quelque manière que ce soit, ne serait-ce que un peu d'écoute, un peu d'intérêt pour ces gens-là, ça peut déjà être une grande aide en soi.
Pour ma part, si je devais adresser directement un message aux migrants qui nous écoutent, ce soit un message d'espoir, ce serait de leur dire de pas abandonner ou de pas penser qu'ils font tout ça pour rien, parce que je sais que c'est des pensées qui ont dû traverser la tête, enfin c'est des pensées qui ont été dans la tête de mes parents, ou dans la tête de mon frère, ou même parfois dans la mienne, parce que ça se passe pas comme on l'avait prévu, parce que l'accueil se passe pas aussi facilement, parce qu'on est en train de tout abandonner derrière nous et qu'on se dit est-ce que vraiment ça en vaut la peine. Évidemment qu'il y a plein de problèmes, qu'il y a plein de difficultés et que ces gens-là sont en train de les traverser et que c'est terrible. Mais avec de la patience, avec de la chance, ils pourront trouver leur place en France. Évidemment que c'est difficile, mais l'intégration est tout à fait possible. Leurs enfants pourront faire leurs études ici. Leurs enfants pourront épouser des jeunes Françaises, marier des jeunes Françaises, devenir des Français à part entière. Je crois que c'est réellement un message qu'on n'entend pas beaucoup aujourd'hui, mais on reste pas un migrant toute sa vie, en fait. Je pense qu'après cette période d'arrivée et cette période compliquée, c'est vraiment possible de devenir Français. Et voilà, je sais pas si des migrants entendront ce message, mais je tenais à le répéter.
Merci beaucoup, Denis et Harris Ancien, résidents du CADA Brou, Nord 77.
Merci beaucoup.
Et à vous, fidèles auditeurs et auditrices de la radio Valais-Mulsien, merci infiniment d'avoir été avec nous. Nous allons nous retrouver dans un bref délai, passer des bonnes vacances. Les ondes de Mista. Mista, c'est un sobriquet, en même temps un mystère. Les ondes mystérieuses, c'est-à-dire les ondes mystérieuses du voyage. Mon émission va traiter les sujets liés à l'asile et l'immigration. Les ondes de Mista.